Eh bien, chers amis, je vois que vous êtes encore tous en vie. Il me fait espérer que vous avez passé d'abord seul avec le Seigneur un bon moment, et puis ensuite que rien n'a dégénéré en bagarre entre vous, parce que peut-être vous n'aviez pas tout à fait la même conception ou les mêmes pensées que l'un ou l'autre. Ce n'est pas pour rien que nous avons dit qu'il fallait, si le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, il nous donne un esprit de force, mais aussi d'amour et de conseil, comme le dit une autre traduction, ou un esprit de sagesse. Car les entretiens que vous avez doivent servir à l'édification et non pas à un étalage de connaissances personnelles ou d'idées que l'on a reçues et que dont on ne peut pas se défaire. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Et quand nous sommes en présence de la parole, si cette parole fait autorité sur nos cœurs, eh bien, elle change pas mal de nos pensées, des pensées reçues, des pensées de notre tradition familiale ou religieuse. Mais nous ne sommes pas ici pour nous opposer les uns les autres ou faire une propagande religieuse. Ceux qui ont lu l'invitation savent que nous cherchons à bannir tout esprit sectaire de nos rencontres. Et voyez-vous, l'esprit sectaire, c'est de s'arrêter sur un texte et de l'isoler souvent des autres et de mettre ça au centre, alors que le centre, constamment, toujours, doit être pour nous qui ? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre. Et nous devons toujours revenir au centre. Marie, la mère bénie de notre Seigneur, a prononcé quelques paroles qui sont restées gravées dans mon cœur pour toujours. Aux noces de Cana, elle a dit au serviteur, alors que Jésus venait de lui répondre, semble-t-il assez brusquement, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Et il lui montre que ce n'est pas elle qui va l'influencer sur ce qu'il a fait. Eh bien, elle ne le prend pas mal, au contraire, elle se tourne vers les serviteurs et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. N'est-ce pas merveilleux? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, nous suivons aussi l'exemple de Marie pour faire tout ce qu'il nous dit. Eh bien maintenant, chers amis, je pense qu'avant de vous demander quelques rapports de vos appuyés, à moins que vous le désiriez tout de suite parce que vous n'en pouvez plus, est-ce que je vous fais d'abord l'exposé et puis après, eh bien, on verra et puis on peut déborder sur cet après-midi. Mais disons que nous allons nous plonger tout de suite dans le grand sujet de cette retraite Mahanaïm du 4 juin 1994. Nous sommes le samedi matin et le thème de ces retraites de 1994, thème général, c'est l'Esprit de Dieu à la lumière des Écritures. Donc nous vous indiquons tout de suite nos sources. Et nous ne sortirons pas des saintes écritures que le Seigneur Jésus a revêtues de son autorité, car il a accepté tout l'Ancien Testament comme étant des écritures. Au temps de Jésus, quand on parlait des écritures, c'était quoi? L'Ancien Testament, la loi, les psaumes et les prophètes. C'était l'Ancien Testament. Et il dit, sondez les écritures, ce sont elles qui parle de moi. Et puis, quant au Nouveau Testament, qui est-ce qui a choisi les auteurs du Nouveau Testament? C'est le Seigneur Jésus. D'abord, ses apôtres, et l'apôtre Pierre, qui est cité en premier, et ensuite, il a suscité quel autre apôtre qu'on voit toujours associé à Pierre? L'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nous, il nous semble que si nous avions été du temps de ces semaines qui ont suivi la montée au ciel de notre Seigneur et qui ont amené les persécutions contre les disciples, vous savez qu'un jour on a persécuté quel disciple qui était rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour? Étienne. Et voilà qu'il y avait là un homme qui s'appelait Saul de Tarse et qui consentait à la mort d'Étienne. Et pourtant, quand on regardait Étienne, eh bien, il est dit que même ses ennemis voyaient qu'il avait le resplendissement sur sa face d'un ange. Son visage était comme celui d'un ange. Et Saul de Tarse, croyant que sa religion, parce que c'était un homme religieux, Saul de Tarse, il était absolument sincère dans sa religion, mais pourtant il était dans l'erreur. De sorte que sincérité n'est pas synonyme de vérité. On peut se croire sincère et être dans l'erreur. Et il pensait que ces apôtres-là, ces gens de cette secte, menaçaient sa religion juive et ils consentaient à la mort d'Étienne. Ils gardaient les vêtements de ceux qui le lapidaient. Et pourtant, le Seigneur a permis la mort d'Étienne, qui est mort, mais d'une façon merveilleuse, hein, que je sois sur la rue ou dans un lit, peu importe, mais que nous puissions mourir en voyant le ciel ouvert. Et c'est ce qu'il a dit. Hein. Je vois le ciel ouvert. Il y a eu des martyrs au travers de toute l'histoire de l'Église, et le Seigneur nous a demandé à nous aussi, soyez fidèles jusqu'à la mort. De sorte qu'il ne faut pas exclure une fin, disons selon le monde, tragique, mais il n'y a rien de tragique de donner sa vie pour celui qui est mort pour nous. C'est dans le programme. Alors, nous ne choisissons pas. Mais nous pourrions nous dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Étienne? Et puis, il choisit ce Saul de Tarse. Mais justement, c'est parce qu'en voyant mourir cet homme, c'était pour Saul de Tarse une prédication, parce qu'il le dit un jour, qu'il a entendu le Seigneur lui dire, il t'est dur de te regimber contre des aiguillons. C'était comme des aiguillons qui perçaient son cœur quand il voyait cet homme dire, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu et qui dit, reçois mon esprit. Eh bien, Dieu a suscité ce persécuteur des chrétiens qui deviendra le persécuté quand il est appelé sur le chemin de Damas et qu'il se convertit. Mais qu'est-ce qui a été changé pour lui? Il croyait que les disciples étaient des imposteurs, qu'il fallait les supprimer, et tout à coup, il entend une voix qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Il tombe à terre. Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, quand on persécute un chrétien, un croyant, on touche à qui? Au Seigneur lui-même. On touche au Seigneur lui-même. Et c'est là la grande révélation que Saul de Tarse a eue sur le chemin de Damas. Et il allait pour mettre en prison les croyants de Damas. Et c'est lui-même qui est fait prisonnier de qui? De Jésus-Christ, et qui écrira « L'amour du Christ nous étreint, l'amour du Christ nous presse ». Et quand Ananias lui est envoyé, il apprend qu'il devra beaucoup souffrir pour le nom du Seigneur. Eh bien oui, c'est le Seigneur qui a choisi les apôtres et qui a choisi l'apôtre Paul et auquel il a fait des révélations merveilleuses. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit toujours, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas reçu cela des autres apôtres, mais il a reçu cela du Seigneur. De sorte que nous avons deux sources de révélation dans le Nouveau Testament. Le témoignage oculaire, donc, des disciples qui ont connu Jésus,
Mais Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, n'a pas connu Jésus selon la chair. Il n'était pas du nom des 12, des disciples. Il a été fait apôtre après, et il peut dire qu'il n'a pas connu Jésus selon la chair, mais il dit « Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » De sorte que les paroles de Paul ont autant de valeur que les paroles des autres apôtres. Donc, nous croyons à la révélation biblique, Ancien et Nouveau Testament. Et cette parole, c'est autorité sur notre cœur et sur nos pensées. On peut avoir eu des pensées différentes, mais quand on se réfère à la parole de Dieu et que l'on croit ce qui est dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile, c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, utile pour nous enseigner, nous instruire, pour nous convaincre, nous donner des convictions, pour nous corriger. On a besoin d'être corrigé sur certains points, et pour rendre l'homme de Dieu, parce que justement, la pensée de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, pour rendre l'homme de Dieu ou la femme de Dieu parfaitement accompli et propre pour toute bonne œuvre. Donc, nous croyons que la parole, l'Écriture, est la meilleure des formations pour nous, quand nous nous soumettons à des règles, à ne pas ajouter à la parole et ne pas retrancher à la parole. Ne pas isoler un verset de la parole, mais le voir dans le contexte et dans l'Écriture tout entière. Certains parlent de ce libre examen dans lequel, hélas, le protestantisme a pu tomber, nous ne sommes pas du tout pour le libre examen. Libre examen, ce n'est pas libre interprétation. Oui, libre examen, on a le droit de lire la parole, mais il ne faut pas confondre cette liberté de lire la parole avec une liberté d'interprétation. Nous ne voulons interpréter la parole que par qui nous l'avons lu le chapitre hier. Chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui seul peut nous conduire et nous diriger, et le Saint-Esprit est toujours dans une unité avec le Fils, qui est la parole, et avec le Père. Eh bien, ceci dit, mes amis, je vais vous donner une petite explication pour que vous sachiez pourquoi j'ai choisi ce thème, pourquoi le Seigneur m'a imposé ce thème. L'Esprit de Dieu à la lumière de toutes les Écritures. Je vous ai dit la valeur des Écritures pour nous. Nous y trouvons la patience, la consolation, comme le dit Paul aux Romains, que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons espérance. Nous ayons de l'espérance, parce que quand vous lisez les journaux ou les revues ou que vous écoutez la radio ou vous voyez la télévision, bien vous n'êtes pas encouragé quant à ce qui se passe dans ce monde. Tandis que quand vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes branché sur la station émettrice du ciel, et que la télévision est dans votre cœur, eh bien, le Seigneur veut bien se révéler à vous et vous remplir de ce qu'il est lui-même. C'est le souhait que je forme pour vous. Alors, l'Esprit de Dieu à la lumière des Écritures, j'ai pensé à traiter ça en trois volets. Alors, le premier volet, c'est la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la création. C'était le premier exposé que je devais vous faire. Dans le deuxième volet, qui aura lieu, si nous sommes encore en vie, au mois d'octobre, nous parlerons de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption. Et dans la troisième série, la présence et les opérations du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie des croyants. Alors, je dirais que ce matin, nous allons aborder notre premier sujet, la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la création. C'est pour ça que je vous ai fait lire le chapitre premier de la Genèse. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Si j'ai proposé de tels sujets pour nos retraites de 94, c'est en pensant à l'enseignement qui a été donné l'année dernière, en ce même lieu. Et qui est-ce qui était là dans ces rencontres? Est-ce que vous étiez nombreux? Oui, vous voyez, il y en avait beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est en pensant à cet enseignement qui vous a été donné, sur quel sujet, pendant trois retraites, la sainteté pratique, à laquelle la pure grâce de Dieu, quand Dieu nous a fait grâce, c'est pour que nous devenions des saints, et pas simplement pour qu'on aille pas en enfer. Si Dieu nous a fait grâce, c'est pour que nous devenions des saints. Il nous appelle à la sainteté. Alors, nous avons parlé donc de la sainteté durant toute l'année dernière. Alors, soumis à l'enseignement des Saintes Écritures, nous avons donc compris que la sainteté en nous n'était pas le résultat d'un effort charnel ou du renoncement à certaines choses. Parce que pour plusieurs, ils pensent que la sainteté, eh bien, c'est quelque chose d'assez rébarbatif et que il faut faire beaucoup d'efforts pour devenir saint. Alors c'est une vie qui vous tue. C'est pourquoi on l'abandonne. On entre dans cette voie-là, on veut devenir saint, on pense qu'on doit renoncer d'abord à ceci, à cela, et puis on est découragé. Et malgré que j'ai essayé de vous enseigner que vous ne deviez pas compter sur vos propres forces ou sur vos renoncements, j'ai eu cette crainte que malgré tout, eh bien, certains, et surtout regarder à eux-mêmes pour voir est-ce que je suis plus saint qu'au mois de janvier l'année passée. Voilà que vous avez fait une découverte affreuse, c'est pire qu'avant. Alors à quoi ça servait d'aller à ces réunions au manoir d'Youville? Depuis que j'ai entendu parler de la sainteté, j'ai voulu devenir saint, et puis voilà que je ne me suis jamais vu si mauvais. Alors vous êtes peut-être venu avec le découragement, en vous disant, bien oui, il nous a parlé de Jésus, mais c'est un fantôme. Vous comprenez pourquoi? Ça ne s'est pas réalisé, l'enseignement qui nous a été donné. Mais j'espère que, malgré tout, vous avez compris que c'est d'une foi entière et quotidienne en l'œuvre du Christ, œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes à la croix du calvaire, c'est dans cette œuvre-là, c'est en lui qu'on trouve la sainteté. Ce n'est pas en nous. Alors, pour la trouver en lui, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Que nous nous quittions nous-mêmes. Que nous mettions en pratique la base de l'évangile. Jésus, je vous l'ai déjà rappelé ce matin, disait, si tu veux me suivre, eh bien, renonce à toi-même. Et renonce à toi-même quand? Le jour de ma conversion, il y a 10 ans? Chaque jour, renonce à toi chaque jour. Et voyez-vous, c'est une grave erreur que l'on fait quand on se dit, bien voilà, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que le Seigneur me cache sa face. Cache sa face de moi. Est-ce que vous avez des fois ce sentiment? Jamais Dieu ne cache sa face de son loin. Il est dit au psaume 84 que Dieu regarde toujours la face de son loin. Il regarde toujours la face de son fils. Et votre sainteté, vous l'avez en qui? Vous l'avez en Christ. Alors, cessez de vous regarder vous-même, d'essayer de mesurer vos progrès, regardez à ce que Christ est devant la face de Dieu. Et s'il a souffert, c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? À cause de nos péchés. S'il est mort, c'est à cause de quoi? À cause de nos péchés. Alors, quand vous pensez que Dieu cache sa face de vous, eh bien, c'est de l'incrédulité de votre part. Et vous devez juger cette pensée comme de l'incrédulité et la traiter en conséquence. C'est que vous êtes en train de vous regarder vous-même, et c'est pas cela que Dieu veut, il veut que vous regardiez son fils. Et c'est quand on regarde son fils, en le contemplant à visage découvert, qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Alors, voyez-vous, ce que vous devez saisir d'une façon très claire, c'est qu'il ne faut pas confondre l'œuvre rédemptrice de Christ avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'œuvre qui nous sauve, qui nous rachète complètement et qui fait de nous des saints, c'est l'œuvre de Christ. Parce que, et là, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est comme nous l'avons vu toute l'année dernière, le Christ nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sainteté et rédemption. Donc, la sainteté chrétienne, c'est une position que le Christ nous a acquis et il nous représente devant Dieu. Et quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Son fils. Et qu'est-ce qu'il voit dans son fils? Du péché? Aucun péché. C'est une question réglée. Jésus est venu, comme Jean-Baptiste l'annonçait, pour ôter le péché du monde. Et vous me direz, oui, mais ça ne correspond pas du tout à ce que je ressens. Moi, je le vois en moi, le péché. Bien sûr qu'il est encore en vous. Mais ce n'est pas une question de sentiment. La question de sentiment, ce n'est pas une question de foi. Vos sentiments, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est cela que je crois. Donc, quant à votre salut personnel, l'œuvre dépend de qui? De qui? Et c'est total, c'est parfait, il a dit tout est accompli. Mais alors vous n'allez pas dire, oh ben bonne affaire, voilà tout est accompli maintenant, je mène ma vie. Non. Puisque tout est accompli et que vous avez reçu Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit avant de quitter les siens? Qu'il leur enverrait un autre consolateur pour être avec nous éternellement. Alors, maintenant, nous avons affaire, depuis la Pentecôte, à cette œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui croyaient à la prédication de l'apôtre Pierre. Pierre a dit clairement qu'ils avaient à se repentir, à ces Juifs auxquels il parlait, à se repentir, à confesser leurs péchés et à croire au Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous serez baptisé de l'Esprit. Et alors, quelle sera l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qu'il ne faut pas confondre avec l'œuvre de Christ? Elle s'interpénètre si vous voulez, mais l'action du Saint-Esprit en nous, c'est justement de nous révéler ce que nous sommes. Parce que pour admettre qu'on est des pécheurs, hein, et pour faire admettre au monde qu'ils sont des pécheurs et que le monde vit dans le péché, est-ce que vous pouvez faire, vous, cette œuvre? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous convaincre de péché. Et c'est ce que nous aimerions vous montrer ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de péché, comme il nous convainc aussi de justice et de jugement. Mais si nous nous laissons convaincre de péché, alors, donc, nous en avons fini avec nous-mêmes. Et j'ai essayé de vous montrer que quand le Christ est mort sur la croix, il n'est pas seulement mort pour vos péchés. Est-ce qu'il y avait du péché en lui? Non, il était sans péché. Eh bien, il est mort pour nos péchés. Mais il n'a pas seulement pris nos péchés, il nous a pris avec lui. Il a pris notre nature, il avait revêtu notre nature, quoique chez lui c'était sans péché, mais il a pris notre nature. Et s'il est mort, c'est à cause du péché. C'est à cause de notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus ne pouvait pas mourir sans cela. Mais il a vraiment donné sa vie pour expier nos péchés. Et il a pris notre nature, de sorte que, quand on croit au Seigneur Jésus, non seulement on croit qu'il est mort pour nos péchés, mais que nous sommes morts avec lui. Que nous sommes morts au péché. Le péché est en nous, dans la chair, ça c'est évident, jusqu'au bout. Mais nous nous considérons comme morts. Le péché ne dominera plus sur vous. Parce que quand le péché veut parler, vous êtes mort. Est-ce qu'un mort écoute? Non. Alors, c'est là le combat de tous les jours. Je me tiens pour mort. Alors, évidemment, nous sommes encore dans la chair, dans des corps de chair, et cette chair, elle est faible. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, que la chair était faible. On peut se laisser aller à une parole qu'on regrettera, et c'est un péché. On peut avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et ce sont des péchés. Nous serions honteux si tout le monde voyait qu'on est capable de penser, surtout quand Jésus nous a expliqué la loi et nous a dit que même quand on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis adultère dans son cœur. Alors, vraiment, ça ne va pas. Eh bien, oui, dans notre corps, dans notre chair, le péché est là. Mais nous, nous sommes morts. Nous nous tenons pour morts au péché et pour vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous montrer justement que le péché est en nous et que nous devons nous tenir pour morts, mais cela tous les jours. C'est pourquoi Paul disait « Je meurs chaque jour ». Et puis, le Saint-Esprit nous montre aussi ce qu'est le monde, dans quel monde nous vivons. Parce que l'apôtre Jean l'a dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Or, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Dites-moi un peu. Ils aiment ce qui est dans le monde. On aime à suivre la mode, les modes, tout ce que vous voulez. On aime le monde. On n'aime pas, on adore. On est devenus des païens. On adore tout. Ce mot qui devrait être exclusivement employé pour Dieu. Moi, je suis désolé de voir que maintenant, tout le monde adore. Ils adorent ce qu'ils mangent, et ils meurent plus vite. Ils adorent aussi ce qu'ils fument. Tout est devenu sujet d'adoration. Puis allons nos enfants, ben, on leur donne des vedettes à adorer. Comme c'est triste. Et on ne connaît plus Jésus. Alors, il est possible que le Saint-Esprit vous ayez manifesté certaines choses. Et alors, vous avez été un peu découragé, mais il ne fallait pas vous décourager. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, c'est juste ce que le Saint-Esprit a montré, que le péché est encore en nous et que nous devons toujours veiller parce que la chair est faible. Parce que dès que vous vous remettez sous la loi et que vous essayez d'obtenir une certaine sainteté en vous plaçant sous la loi, vous êtes de nouveau sous la malédiction. Et comme on dit au Québec, on a été culpabilisé, culpabilisé, culpabilisé. Eh bien, vous n'avez pas à vous remettre sous la loi. Christ est mort pour satisfaire toutes les exigences de la loi, de sorte que si je vis en lui, je sais qu'en lui, les exigences de la loi que moi j'ai pu enfreindre, elles ont été accomplies pleinement par le Christ. Et Dieu ne revient pas là-dessus. De sorte qu'il y a des versets fantastiques que vous devez croire. Il est dit dans la première épître de Jean, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous le croyez? Ou bien est-ce que vous doutez? Je vous dis, mais je ne peux pas dire ça, ce n'est pas mon expérience. Mais votre expérience n'est pas la foi. La foi, elle croit ce que dit la parole. Mon expérience, bien sûr, elle est cela. Mais je ne vis pas de cette expérience. Je vais me tenir pour mort. Car voyez-vous, et c'est là le drame, c'est qu'on a fait avec une certaine évangélisation, on a rendu le si grand salut de Dieu un petit salut. Vous n'êtes pas sauvé quand vous avez accepté Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer, comprenez-vous? Vous êtes sauvé pour vivre sur la terre à la gloire de Dieu. Et cela tous les jours. Parce que voyez-vous, c'est vraiment merveilleux de pouvoir dire à un mourant, parce que quand on meurt, il y a quand même tout un travail qui se fait. Hein. On n'a pas voulu de Dieu pendant toute sa vie, et puis au moment de la mort, on appelle le prêtre ou le pasteur, hein, l'un ou l'autre. Puis qu'est-ce qu'on veut? Une confession. Alors évidemment, on ne peut pas dire à quelqu'un qui va mourir que s'il confesse ses péchés, le Christ n'est pas mort pour ses péchés. Mais alors, la plupart des gens, ben, ils meurent en ayant connu justement Jésus seulement au dernier moment, comme celui qui est mort pour leurs péchés, mais ils n'ont pas eu une vie pour Dieu. Ils ont perdu leur vie. Et c'est quelque chose. Parce qu'il y a un au-delà et il y a une autre vie. Alors, mes amis, vous devez comprendre que le salut, c'est une question quotidienne. Oui, le jour où vous avez reçu Christ dans votre cœur, eh bien, vous êtes sauvé et vous pouvez être sûr de votre salut, non pas parce que vous vous appuyez sur vos œuvres, mais parce que vous croyez sa parole. Mais alors, évidemment, si vous croyez sa parole et que vous êtes si merveilleusement sauvé, quelle sera votre vie? Une vie de bonnes œuvres. Vous marcherez dans des bonnes œuvres, pas des œuvres que vous allez rechercher vous-même. Les bonnes œuvres qui découlent d'une foi authentique, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parce que comme ça, vous vous laissez aller à votre imagination et vous voulez faire des bonnes œuvres, puis avoir votre nom peut-être, comme étant une personne charitable et tout ce que vous voulez, mais ça c'est encore du moi. Et ce que nous devons saisir, c'est que quand Dieu nous sauve, il nous prépare pour lui, pour être de son peuple, et il a préparé les bonnes œuvres pour que nous marchions en elles, pour que nous les pratiquions. Alors on n'a pas besoin de se creuser la tête, et qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? Faites toute chose de cœur comme pour le Seigneur. Quand tu fais ta cuisine, au lieu de la faire pour ton mari impossible, tu la fais pour le Seigneur. Vous comprenez? Ben, ça c'est une bonne œuvre. Et puis peut-être que ça va toucher votre mari. Si vous en avez un. Eh bien, que la grâce de Dieu nous soit donnée de comprendre que nous devons faire toutes choses comme pour le Seigneur. Balayer la salle, balayer les escaliers, passer l'aspirateur. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant, ça. Et pourquoi est-ce qu'un homme ne le ferait pas? n'est pas simplement une tâche pour les femmes. Puis apprendre à repasser. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas aussi à repasser? Je veux rien enlever aux femmes. Mais au fond, ça peut nous être demandé. Comprenez-vous? Fais toutes choses de cœur comme pour le Seigneur. Alors, on ne s'occupe plus de la valeur des bonnes choses. Voyez-vous, quand le Seigneur nous manifestera dans le ciel, je sais qu'il y en a bien des personnes qui passeront bien, bien avant moi. Pourquoi? Mais parce que peut-être elles ne pouvaient pas faire grand-chose, mais elles pouvaient prier. Et cette sœur-là qui finit ses jours, la mère supérieure du monastère du Précieux Sang, qui m'a écrit cette lettre, elle a 93 ans. Et elle est en prière pour ses retraites. Elle était en prière quand j'étais sur la table d'opération pour que Dieu, par le précieux sang de Christ, me nettoie du cancer. Bon. Et alors, dans un sens, elle a été exaucée pour le moment. Alors elle nous dit, je serai toutes les heures en prière avec vous. C'est ça qui est beau. Nous nous portons les uns les autres dans le Christ. Alors, j'en viens maintenant à votre lecture, où nous trouvons le Saint-Esprit pour la première fois dans le chapitre premier de ce livre de la Genèse, où je vous ai dit que toutes les vérités essentielles étaient en germe dans la Genèse. Peut-être que c'était sans le vouloir un petit piège, mais hier soir, je vous ai parlé donc de Dieu, de la création, du mariage, le péché, le serpent, le jugement, les promesses, la promesse, le sacrifice, la résurrection, l'enlèvement. Puis j'ai parlé de sept hommes qui illustrent chacun une vérité spirituelle. Et je vous disais que c'était merveilleux de voir que les vérités spirituelles sont illustrées par des vies humaines. Et vous avez remarqué que je me suis arrêté à Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit peut-être que ça les ennuie. Alors, je vais laisser passer Joseph. Puis la première chose qu'on m'a dit en sortant, mais tu m'as dit, vous n'avez pas parlé de Joseph, parce que ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, au moins, il écoute. Vous allez dire que j'ai une triste opinion de vous. Non, pas du tout, mais je sais très bien comment ça peut se passer. Bien oui, même l'histoire de Joseph, vous savez, elle est à la fin, l'histoire de Joseph, à la fin de la Genèse. Mais je ne vais pas recommencer. Mais qu'est-ce qu'on a dans cette histoire de Joseph? Ce Joseph qui a été vendu par qui? Par ses frères. Finalement, il est reconnu par ses frères qui se prosternent devant lui. Et qu'est-ce qui arrivera aux Juifs, à ce peuple d'Israël, qui a rejeté le Seigneur, pas seulement lui, mais au fond, tous les hommes l'ont rejeté, puisque les païens étaient aussi dans le coup, puisque les Juifs ne pouvaient pas crucifier Jésus, et il a fallu qui? Pilate, les Romains. Alors, Romains et Juifs, religieux et païens, ont été d'accord pour crucifier le Seigneur. De sorte que nous sommes tous responsables de ce crime. Mais le peuple juif qui avait livré le seul être qui avait accompli la loi, qui devait être la gloire d'Israël, ils l'ont livré aux Romains, eh bien, ce peuple est grandement responsable, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, en ce moment, nous savons que les Juifs, selon les prophéties bibliques, ont déjà retrouvé en partie la terre d'Israël, mais vous voyez combien il y a de difficultés pour qu'ils s'y installent. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, mais il rentre dans un esprit d'incrédulité. J'étais bien, bien des fois en Israël, à peu près chaque année, pendant longtemps, eh bien, j'ai parlé aux Juifs, le Messie, c'est notre sueur qui va régénérer le pays. Ils n'attendent pas du tout le Messie. Il y en a qui commencent à l'attendre. Mais d'une façon générale, eh bien, on attribue tout à l'homme. à la fin de la guerre des six jours, il y a eu un moment d'émotion, alors tout le monde est allé au mur, et puis ils ont dit, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Puis une semaine après, c'était les généraux. C'était les généraux. Dieu, on ne s'en souvenait plus. Alors, voyez-vous, on est terriblement oublieux. Mais, dans l'histoire de Joseph, nous avons en figure ce qui va se passer à la fin. Les Juifs, selon la prophétie de Zacharie, se tourneront dans leur détresse, parce qu'ils seront entourés de toutes parts d'ennemis, ils se tourneront où ? Ils regarderont vers le ciel. Et ils auront une révélation du Seigneur, ils regarderont à celui qu'ils auront percé. C'est écrit en toutes lettres dans Zacharie, de sorte qu'ils n'auraient pas même besoin d'avoir le Nouveau Testament pour être amenés à croire que Jésus devait mourir. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé et ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique, le fils unique de qui ? Du Père, de Dieu. Et comme on se lamente sur un premier-né, le premier-né de qui ? De Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Tout cela est écrit. Et alors, ils reconnaîtront leur Messie comme Joseph s'est fait connaître à ses frères et que ses frères l'ont reconnu. Eh bien, vous voyez, dans la Genèse, ce livre si maîtrisé, vous avez les vérités qui vont jusqu'à la fin et jusqu'à l'établissement du royaume du Seigneur. Alors, donc, j'ai corrigé mon erreur, mon omission, je suis revenu sur Joseph. Mais je vous aime, les amis. Et on s'aime.
Vous êtes pardonné.
Je suis pardonné, merci. Bon, eh bien, que l'esprit de pardon soit dans tous nos cœurs. Maintenant, je ne vais pas entrer dans, ça sera assez bref, je vais vous donner quelques jalons. Vous savez que les rabbins juifs disent toujours que pour chaque verset biblique, il y a 70 interprétations, différentes, mais pas contradictoires. De sorte que vous pouvez lire 70 fois l'écriture et y trouver toujours quelque chose de nouveau. Pas qui contredit la lumière que vous avez déjà reçue, mais qui vous donne davantage de lumière. Il y a eu de la lumière hier, il y en aura davantage aujourd'hui, mais il faut persévérer dans la lecture des Écritures. Et alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas en rester à la petite portion dévotionnelle. On lit chaque jour un passage de la Bible, puis on est content. Hein. Il ne nous tombera pas de fil sur la tête parce qu'on a lu sa Bible. As-tu lu ta Bible ce matin ?
Oui, j'ai lu.
Alors. C'est le paratonnerre ?
Non.
Ne mettez pas votre confiance là-dedans. C'est de lire la parole, de s'en nourrir, et de lire depuis un livre, on le lit depuis la première page à la dernière. Et c'est comme ça que vous aurez la vision de l'unité de l'écriture, et qu'un verset qui vous était incompréhensible va tout à coup s'éclairer par un autre verset que vous avez lu plus loin, et vous aurez un tableau merveilleux de l'unité des écritures. Et au lieu d'y voir toute espèce de contradiction, vous y verrez vraiment les réponses de votre Dieu. Alors, dans les questions que je vous ai proposées, ce matin, je me propose simplement de répondre à la quatrième. On reviendra sur les autres. Si l'incrédule ou l'athée cherche des preuves raisonnées de l'existence de Dieu, quelle sera l'attitude du croyant en lisant ce récit ? Bien, je dirais que l'attitude du croyant qui croit que Jésus a rendu témoignage lui-même à ce récit de la création, eh bien, c'est lire, écouter et adorer. Chercher à comprendre et adorer. Certes, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y aura toujours des choses qui nous dépassent. Et en face de ce récit, eh bien, nous sommes souvent dépassés. Alors, avez-vous découvert, en lisant les premières écritures, que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire? Au commencement, Dieu. Le terme de Dieu, c'est Elohim. Et il faudrait traduire au commencement, les dieux. Mais, est-ce que c'est créer? Le verbe est au singulier. Au commencement, Elohim, donc les dieux, créa. Donc, il y a un seul Dieu, mais qui se manifestera, comme tout le reste de l'Écriture nous le montre, en trois personnes, nous aurons l'occasion de le voir. Alors, la réponse c'est, est-ce que c'est le hasard qui a créé? Est-ce que la terre vient du hasard? Non. Est-ce que la création, enfin le monde, est-ce qu'il était éternel? Non, il y a eu un commencement. Il y a eu un commencement. C'est la première réponse. Hein? Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Mais vous voyez, c'est par la foi qui vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Dieu nous dit cela. Il n'essaye pas de se prouver, on n'essaye pas de prouver l'existence de Dieu. Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. Quand vous voulez essayer de prouver l'existence de Dieu à quelqu'un, vous arriverez à un match nul. C'est vrai, parce qu'on discute, sans arrêt. Hein. Puis un argument, un autre argument, bien sûr. Avant, on aimait beaucoup souligner toutes les preuves de l'existence. Il y en a, mais ce n'est pas comme cela qu'on appelle les âmes. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Et quand vous avez ce témoignage, vous dites, prenez-moi pour un fou, un illuminé, je ne vais pas essayer de vous prouver l'existence de Dieu, mais je l'éprouve tous les jours dans ma vie. Je sais que Dieu existe parce que je ne suis pas seul, il est dans ma barque, il répond à mes prières, et je puis vous parler d'un Dieu qui a des oreilles, qui n'est pas une statue, qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, un cœur qui n'aime pas, des mains qui ne bougent pas. C'est pas ça, mon Dieu. Mon Dieu n'est pas une statue. Mon Dieu est un Dieu vivant. Et je connais son visage, où l'ai-je vu? Dans la personne de Jésus. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Le monde voulait voir Dieu, et il a demandé à le voir. Ben, il est venu, il s'est incarné, il a pris un corps pour que nous puissions subsister, parce que nous sommes tellement fous. Nous ne pouvons pas même regarder le soleil, hein, qui est une création de Dieu. Vous avez vu la jeune fille qui a regardé l'éclipse? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Aveugle, hein? Alors nous voudrions voir Dieu, l'auteur du soleil. Et nous ne sommes pas même capables de regarder le soleil. Donc nous sommes des insensés. Comme Dieu nous aime, il s'est incarné, il a pris, au risque de ne pas être connu, il a pris un corps, né de la Vierge Marie. Et il a grandi ici-bas comme un homme, il a vécu comme un homme. Alors, c'est lui qui est le Créateur. Quand on revient au chapitre premier du prologue de Saint Jean, il a dit « Au commencement était la parole ». Donc au commencement, il y avait déjà quelqu'un. Hein? Au commencement était la parole. Prenez le psaume de Moïse, le psaume 90. « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Un être qui n'a ni commencement ni fin, ben, nous ne pouvons pas le concevoir, mais c'est ça Dieu. Alors, quand on ne peut pas le concevoir, qu'est-ce qu'on fait? On adore. On adore, on se prosterne, parce qu'on est complètement dépassé. Et c'est dans cette adoration que l'on est vraiment heureux. Bien, voilà le premier verset. Maintenant, le deuxième verset. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il y a diverses interprétations. Est-ce que vous pensez que Dieu a créé la terre informe et vide, d'après d'autres versets, bien, si vous lisez dans Ésaïe au chapitre 45, Dieu n'a pas créé la terre pour être vide. Et vous remarquez que tous ces mots, ténèbres, informes, vide, tohu bohu, comme le dit le texte, l'abîme, eh bien, c'est synonyme de jugement. Alors beaucoup ont pensé que le verset premier nous donnait la création, Dieu crée le ciel et la terre, mais quand le verset premier et le verset 2, il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas être catégorique là-dessus, mais enfin, c'est possible. Et qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Dieu a créé les hommes d'abord, ou est-ce qu'il a créé les anges, les habitants des cieux? Il a créé les anges d'abord, les habitants des cieux. Et quand il a créé la terre, il est dit que les habitants des cieux contemplaient la création. Chapitre 38 de Job, et c'est toujours l'écriture qui explique l'écriture. Quand Job a posé tant de questions à Dieu, Dieu ne lui répond pas sur ces questions, mais il lui pose des questions. Puisque nous, nous voulons toujours questionner Dieu, Dieu lui dit au chapitre 38 de Job, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fait les dimensions, ces dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elles le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin chantaient d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Comme à la naissance de Jésus, hein, qui c'est les fils de Dieu? Les anges. À la naissance de Jésus, il y a eu les anges qui poussaient des cris de joie. À la création de la terre, il y a eu des cris de joie par les anges. Mais alors, que se serait-il passé? Parce que on ne conçoit guère que Dieu crée quelque chose qui ne soit pas merveilleux. Eh bien, beaucoup pensent qu'il s'est passé la chute de qui? Du diable. Que vous voyez au chapitre 3. Quand le verset 1 est le verset 2, il s'est passé quelque chose que nous ne trouvons pas là, mais que nous trouvons ailleurs, soit dans le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, ce fameux Lucifer, chef des anges, qui se serait révolté contre son créateur, contre Dieu, et qui a été jugé. Et lui, qui semble, d'après le chapitre 28 d'Ézéchiel, avoir régné sur cette première création, sorti des mains du créateur où tout était parfait, comme Dieu seul peut le faire, et qui s'appelait Éden, c'était au fond toute cette terre qui s'appelait Éden, de sorte que dans le chapitre 2, on retrouve un jardin d'Éden. Mais avant, c'était là. L'environnement, c'était toute cette terre acclamée par les anges, et on voit que les anges avaient une responsabilité sur cet environnement. Alors, il semble bien qu'il y a eu, donc, entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose qui s'est passé pour réduire la terre dans cet état informe et vide, ténèbres et abîme. Mais, au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Comme il a plané sur Marie plus tard, hein? L'Esprit de Dieu était sur cet état chaotique. Et tout est venu de l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis simplement, mais c'est pour vous donner une ligne d'édification, ne peut-on pas voir dans ce récit, non pas seulement les origines, et nous les croyons, mais au fond, l'œuvre du Saint-Esprit dans une âme. Est-ce que Dieu nous a créés pécheurs? Non. Mais nous avons fait le mauvais choix, comme Satan aussi a fait le mauvais choix. Et alors, qu'est-il arrivé à notre âme? Eh bien, on peut la définir par le verset 2. Les gens ne savent pas pourquoi ils existent. Ils sont dans les ténèbres. Pour eux, ils frôlent constamment les abîmes, mais pourtant, l'Esprit de Dieu plane sur les âmes. Et il faut vraiment le travail de l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse agir. Et alors, on aurait dans ce chapitre comme une révélation de l'œuvre de Dieu dans une âme. Comment est-ce que ça commence? Quand l'Esprit de Dieu commence à nous convaincre de péché, qu'au fond nous sommes des gens vides. Laissés à nous-mêmes, nous sommes vides. Laissés à nous-mêmes, nous sommes dans les ténèbres. C'est vrai ou c'est faux? Avant que le Seigneur ait agi, vraiment. Nous sommes dans le vide, on essaye de remplir son cœur et puis rien ne nous suffit. Et alors, on est dans les ténèbres, on est dans le vide, mais l'Esprit de Dieu commence à travailler et à nous convaincre. Et quand nous sommes convaincus de péché et que nous nous voyons perdus, qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière soit. Vous vous souvenez quand vous étiez dans les ténèbres? Et un jour, la lumière est venue. Et pour vous montrer que je ne me laisse pas aller à mon imagination, prenez le chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens. Et qu'est-ce que vous lisez là? Cette parole merveilleuse, c'est Dieu qui a dit, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, hein? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs, dans ces cœurs qui étaient désolation et vide, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. N'est-ce pas merveilleux? Quand on chante « Je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » Eh bien oui, alors là c'est le premier jour. Hein? C'est le premier jour de notre vie chrétienne. Après cette conviction de péché que nous avons eue, voilà que nous naissons de nouveau. Et voyez-vous, c'est tellement remarquable. Quand vous reprenez ce verset, de que la lumière soit donc, la terre était désolation et vide, et les ténèbres étaient sur la surface d'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Si tu ne nais d'eau et de l'Esprit. Enfin, vous avez ça déjà dans ce verset. Hein? L'eau est l'Esprit. Et nous naissons d'eau et d'Esprit. Et alors, ensuite, vous avez le deuxième jour, on ne s'arrête pas là. L'œuvre de Dieu, elle est faite par Jésus-Christ, une fois pour toutes, mais la connaissance de ces vérités, nous les apprenons, nous l'apprenons graduellement. On a tout d'un coup la lumière, mais qu'est-ce que l'on réalise? Et Dieu, au deuxième jour, dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux d'au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi et Dieu l'appela ciel. Voilà que tout à coup, nous qui ne pensions pas au ciel, nous prenons conscience du ciel. qu'il y a le ciel. Et que nous sommes au fond rachetés pour le ciel. Que nous ne sommes pas toujours pour la terre, mais que nous savons que notre Seigneur qui est au ciel, eh bien, il nous a préparé une place, comme il l'a dit, je m'en vais vers mon Père. Nous apprenons que nous sommes rachetés pour le ciel. Mais, évidemment, au début de notre conversion, quand l'œuvre de Dieu s'est faite, quand la lumière s'est faite, on voudrait tout de suite partir vers le Seigneur. J'ai été aumônier pendant 7 ans, pendant la guerre, et les plus belles morts que j'ai vues, eh bien, ce sont des jeunes qui venaient de trouver le Seigneur, et tout leur désir, c'était d'aller auprès de lui. Tandis que des vieux, chers amis, ça s'accrochait, ça s'agrippait, ça voulait pas partir. D'abord, le sac était très lourd. Il ne s'était jamais confessé journellement. Alors, évidemment, c'était le grand déballage après. Ils avaient peur, parce que tout d'un coup, ils réalisaient qu'ils avaient manqué leur vie. Eh bien, voyez-vous, il y a dans l'Écriture, c'est pour que vous soyez édifiés, pas simplement j'ai lu le texte, je sais quelque chose sur la création, etc. Ce sont des choses intéressantes. Mais, voyez-vous, il y a un sens aussi spirituel dans tout cela. Il y a une œuvre graduelle qui se fait. Tout d'un coup, on prend conscience du ciel. Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Affectionnez vos cœurs aux choses qui sont en haut. Mais qu'est-ce qu'on connaît du ciel? Qu'est-ce qu'on connaît du ciel? L'apôtre Paul, on a parlé et puis Jésus disait, mais si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? C'est lui qui a dit cela, n'est-ce pas? Alors, maintenant donc, on a conscience du ciel. Mais le Seigneur ne veut pas nous sauver pour qu'on aille tout de suite au ciel, il nous sauve pour la terre, que nous avons dit. Alors, le troisième jour, on prend conscience qu'on a un témoignage sur la terre. Et c'est l'œuvre du troisième jour qui nous est racontée au verset 9. Après le second jour, qu'on pourrait appeler aussi le jour du baptême, hein, si on veut, après la foi, eh bien, on témoigne de notre foi par le baptême. Et puis ensuite, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et que en un lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi, et il l'appela terre. Alors, tout à coup, nous voyons que nous avons un témoignage à rendre sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait croître sur la terre? De l'herbe et des fruits, des arbres selon leur espèce. Nous avons un témoignage à rendre et nous avons apporté du fruit. C'est ce que tout à coup, comme chrétiens sauvés, on apprend que Dieu attend de nous que nous portions des fruits, et des bons fruits, qui seront une nourriture non seulement pour nous, mais pour les autres. Et après, eh bien, il y a une gradation qui se fait. Vous avez le quatrième jour où vous voyez paraître le soleil qui représente qui? Le Seigneur, n'est-ce pas? La lune, qui reflète quoi? La lumière du soleil et les étoiles, hein, qui n'ont pas de lumière propre non plus, mais qui reflètent la lumière. Et alors, si le Seigneur est le soleil, notre chef, est-ce que maintenant, est-ce qu'on le voit? Non. Il a disparu. On n'a pas voulu du Seigneur. Alors, nous sommes dans la nuit. Le monde est dans la nuit. Le monde est dans les ténèbres. Qu'est-ce qui peut éclairer les ténèbres de ce monde? La lune, qui est une image de l'Église, qui voit, elle, le soleil. Comprenez-vous? Alors, la lune n'a pas de lumière propre, elle reflète le soleil. Alors, l'Église du Christ, et quand je dis l'Église en général, non pas, hélas, ce qui est maintenant, c'est les divisions, mais Il y a pourtant une Église qui est composée de tous les rachetés, où qu'ils se trouvent, mais hélas, ils sont divisés, et le témoignage que nous devons rendre, c'est que nous sommes unis essentiellement dans le Christ. Et ce que nous avons à faire, c'est de refléter, non pas de nous montrer nous-mêmes, nous nous sommes trop montrés, mais de montrer le Christ. Le monde ne voit pas le Christ. Et Jésus l'a dit, pour que le monde croie, il faut qu'il voie quoi ? Nos œuvres. C'est pourquoi les œuvres sont si importantes. Nous avons à manifester la vie de Jésus. Le monde ne voit pas. Mais s'il nous regarde, il doit être amené à penser au Christ. Nous devons avoir des vies qui font penser à la vie du Christ. Et alors, individuellement, nous devons être comme des étoiles, n'est-ce pas ? Chacun de nous doit être comme une étoile. Et il est dit qu'une étoile diffère d'une autre étoile dans la gloire. Toutes n'ont pas le même éclat. Et tous les chrétiens n'ont pas le même éclat. Mais dans la mesure où leur cœur est attaché au Seigneur, eh bien, ils répandent une lumière. Es-tu une étoile pour les tiens ? Une étoile dans ton foyer, dans ta famille ? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Et alors, après, bien vous avez, après ce quatrième jour où on a compris que nous devons avoir communion les uns avec les autres, que nous ne sommes pas des individus simplement isolés, mais que nous faisons partie du corps de Christ, de l'Église, eh bien, vous avez le jour suivant, que les eaux produisent et abondent des animaux vivants, et que les oiseaux volent dans l'étendue du ciel. Il y a deux choses dans le cinquième jour. Donc, les animaux dans les eaux, les poissons donc. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Qu'est-ce qu'il en ferait ? Des pêcheurs de poissons ? Des pêcheurs d'hommes. Et les eaux sont toujours une image aussi des nations du monde. Eh bien, dans ces nations du monde, il y a des âmes à sauver. Et nous devons devenir des pêcheurs. Tout à coup, la question de la mission prend le cœur du chrétien qui a d'abord été heureux d'être sauvé pour lui-même, mais maintenant il pense aux autres, à cette multitude qui se trouve dans les eaux sans connaître le Seigneur. Et puis, ils sont aussi prêts à s'envoler de leur nid pour aller sous d'autres cieux apporter la parole de Dieu, la lumière. C'est l'évangélisation du monde et qui entre dans nos cœurs, dans cette cinquième étape, puisque Dieu nous forme pour lui sur la terre. Et puis, alors, vous arrivez au sixième jour, une fois qu'on a compris que nous avions une responsabilité, et ça, je peux vous donner tous les versets bibliques. Qu'est-ce que nous apprenons ? Que Dieu dit, il s'arrête, faisons l'homme à notre image. Alors, la dernière de ces créations, c'est l'homme. Et au fond, toute l'œuvre de Dieu, toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est nous amener à l'état d'homme fait. Comprenez-vous ? Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, nous devons grandir. Pas seulement être content, oh, mais j'ai la lumière, je connais le ciel, j'ai un témoignage sur la terre le troisième jour, je fais partie de l'Église, je sais ce qu'est le soleil, mais je veux resplendir la face du Christ, avoir un témoignage, et puis ensuite j'ai à cœur la mission, j'ai à cœur les autres pays où il y a les gros poissons, Jésus a dit je vous ferai pêcheurs d'hommes à ses disciples, et puis il a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre, apporter l'évangile, et voilà les oiseaux qui s'en vont, et maintenant, eh bien, le Seigneur crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et alors, c'est la plénitude de vie en Dieu et on entre ensuite dans le repos de Dieu. C'est le septième jour qui est devant nous. Je vous dis simplement ceci, peut-on déjà voir dans l'activité du Saint-Esprit, dans la création, une figure de son œuvre dans la régénération d'une âme. Vous voyez, l'œuvre de Dieu dans une vie, c'est l'œuvre de toute la vie. Il ne faut pas dire, ben voilà, moi, j'ai été converti à X années, puis je reste un petit bébé en Christ. Non. Il y a toujours plus de lumière. Eh bien, nourrissez-vous de la parole. C'est une manière de vous donner une édification biblique. Et il y a bien d'autres choses que nous ne pouvons pas soulever. Alors, c'est ce que je disais au verset 5. Laissons les géologues, les astronomes poursuivre leurs recherches. Acceptons les faits scientifiques. Mais ne frémissons pas devant les hypothèses scientifiques. Or, on a avancé un tas d'hypothèses scientifiques. Et, comme le dit l'apôtre, c'est de la fausse science. Quand on pense qu'on enseigne encore l'évolution dans les écoles et que les grands savants ont rejeté l'idée de Darwin et de l'évolution et que un des derniers savants français disait c'est un conte pour grandes personnes, un conte de fées pour grandes personnes. Mais on enseigne nos enfants. Alors, quelles sont pour nous ou pour vous les vérités essentielles que votre lecture a mises devant vos yeux? Eh bien, Dieu est le Créateur. Il a fait toutes choses selon son espèce, vous l'avez trouvé 5 fois, selon son espèce, ça redresse toutes choses. Et puis, la Bible nous montre que, à la création, c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit couvait au-dessus de tout cela, comme c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit de sauver les âmes. Nous ne sommes pas de ces prédicateurs qui prétendent qu'ils sauvent eux-mêmes les âmes. Nous vous présentons la parole. Jésus lui-même ne s'est jamais attribué le salut d'une âme. Il a dit que les âmes qui se tournaient vers lui, c'était les âmes que Dieu lui avait données. C'est les âmes que Dieu lui avait données. Le Père les lui a données, lui les a sauvées. Et quand il les a sauvées, il les redonne à qui? Au Père. C'est tellement beau la parole. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous prépare pour le repas. Et j'espère que vous ferez le petit tour de la colline. Il y a le cimetière des Sœurs là-haut, puis il y a une vue magnifique. Si vous pouvez, entre midi, entre 1h et 2h, jouir de cette belle nature et de cette température, vous serez heureux. Et on se retrouvera ici à 2h. Nous rendons grâce. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te remettre ta parole que nous n'avons fait qu'effleurer, mais nous voulons te demander que par la puissance de ton esprit, elle pénètre dans nos cœurs et que nous ne restions pas étrangers à ces vérités et à cette merveilleuse gradation de lumière que tu accomplis dans chacune de nos vies, pour que nous puissions repartir d'ici non pas avec les idées d'un homme, mais avec le goût de lire ta parole et de se laisser convaincre par elle en Jésus-Christ. Amen. Amen.